Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'avais pas d'idée cette semaine, alors j'ai demandé à Boris, notre réalisateur, quel était son roman préféré. Ça tombe bien, c'est un chef-d'œuvre. Voyage au bout de la nuit de Céline. Et voici la première phrase du livre, la toute première phrase. Ça a débuté comme ça. C'est un peu court, alors je vous lis la suite. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. J'entre avec lui. Voyage au bout de la nuit, publié en 1932. Avec ce style oral très particulier, c'est un grand roman. Des romans, nous en découvrirons plein d'autres chez Dave tout à l'heure. Nous visiterons sa bibliothèque. Dave, le chanteur, mais oui, je m'étais dit que quelqu'un qui chante du côté de chez Swan aimait forcément les livres. Je me suis pas trompé, loin de là. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons, bien sûr, avec la chronique jeunesse de Victor Dolande tout à l'heure. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Bonjour Guillaume Lavenant.
Bonjour.
Vous signez Protocole Gouvernante chez Rivage. C'est un premier roman, l'un de ceux qui se font très remarquer en cette rentrée littéraire. Il est d'ailleurs sélectionné pour le prix de Flore, notamment. Bravo. Il faut dire qu'il étonne. C'est très original. C'est inédit dans le style, dans la forme. C'est un manuel, une sorte de mode d'emploi destiné à une gouvernante. C'est donc écrit à la deuxième personne et au futur. Je vous lis le tout début. Vous allez comprendre. Vous irez sonner chez eux un mercredi, au mois de mai. Vous serez bien habillé avec ce qu'il faut de sérieux dans votre manière d'être peigné. Vous ressentirez un léger picotement dans le bout des doigts. Il vous faudra tourner la tête et projeter votre regard sur le voisinage pour recouvrer votre calme. Ce qui finira par survenir à la vue des pelouses bien tondues et du soleil qui dessine les contours de chaque chose. Alors c'est un petit peu perturbant au début, mais on s'y fait très bien. Alors donc, cette gouvernante arrive dans une famille bourgeoise pour s'occuper de la petite fille, Elena. Elle est belle, cette gouvernante, et très appliquée. Le père fantasme un peu sur elle, la mère la considère comme une confidente. Elle regarde même ensemble un feuilleton, les aventures de Leslie Jones, on va y revenir. Mais ensuite, ça se complique. D'abord, Guillaume Lavenant, un mot sur la forme. C'est très particulier pour construire un récit de recourir à la deuxième personne et au futur. Pourquoi vous avez choisi ce procédé-là?
Ce qui m'intéressait dans cette forme particulière, c'est qu'elle interroge à la fois le lecteur, puisqu'elle s'adresse à lui aussi, ou vous, et parle de mon héroïne et prend surtout la forme de Protocole Gouvernante. C'est le titre que j'ai choisi parce que c'est un véritable manuel, finalement, un manuel d'espionnage, un manuel de perturbation du quotidien d'une famille bien rangée. Et donc, la forme me paraissait apporter quelque chose de très intéressant et troublant pour le lecteur. Donc, j'avais envie de tirer ce fil et d'essayer de voir comment ça pouvait jouer, ce que ça pouvait provoquer chez le lecteur. Et voilà, du coup, j'ai suivi ce fil.
Protocole, ça sonne aussi un peu comme un plan de grande envergure, un truc un peu géostratégique. Mais on va y revenir. Ça commence comme un roman social sur la vie des bourgeois moyens, avec les pelouses bien tondues, les voisins curieux. On sent que vous aimez bien vous balader dans cet univers, le décrire en tout cas.
En tout cas, c'est la société dans laquelle s'inclut mon roman, s'inscrit mon roman. Et il s'agissait pour moi de montrer un peu les travers de ce quotidien un peu bourgeois et de montrer aussi comment la gouvernante qui arrive dans ce milieu va perturber un petit peu la vie bien rangée de ces gens.
C'est un quotidien bourgeois assez banal en fait, mais surtout ce qui est troublant dès le départ, c'est qu'on ne sait pas vraiment où ça se passe, pas tellement non plus à quelle époque. Il y a peut-être quelques indices ici et là, mais enfin, c'est voulu ça, je veux dire, de nous mettre dans une position hors du temps, hors de l'espace d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je n'ai pas insisté sur les aspects sociétaux ou sociologiques de l'histoire. Je voulais que ce soit un peu comme une photo avec un flou d'arrière-plan, quelque chose qui me permette de décrire que les éléments qui m'intéressaient et qui, même si on voit des résonances avec des situations actuelles, restent dans la pure fiction et dans vraiment un travail romanesque et d'invention. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail un petit peu de décoller du réalisme en gommant les lieux, en gommant certains noms. Enfin, voilà, on est dans une réalité un peu alternative. C'est ce qui fait aussi que le roman va chercher du côté de la dystopie, par exemple. Il y a des lecteurs de science-fiction qui apprécient le roman aussi pour ça, parce qu'on est un peu entre les genres, quoi.
Ça crée d'ailleurs une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que l'héroïne est plutôt guidée par le narrateur, par ses instructions. En revanche, le lecteur, lui, est complètement libre d'imaginer à la fois l'époque, à la fois le décor, à la fois les personnages, quoi.
Oui, bien sûr, ça laisse effectivement une grande place au lecteur. Le lecteur aussi est libre, face à ce protocole, de se dire a-t-il été suivi ou pas. On est vraiment dans une projection, puisqu'on est au futur. Moi, mes narrateurs imaginent ce qui peut se passer dans cette histoire, mais le lecteur ensuite peut sans cesse se dire est-ce que ça a vraiment eu lieu de cette façon. On est face à des narrateurs qui prévoient tout dans les moindres détails, donc il y a quelque chose de très intrigant. Et voilà, ce jeu-là m'intéressait en tout cas.
Et oui, il y a ce côté de la prévision avec le futur. Vous ne vous êtes pas fait des nœuds au cerveau pour construire l'intrigue de cette manière-là, en la plaçant au futur ?
Bah, ça a été un long travail, on va dire, assez complexe effectivement, de faire tenir ça, c'est-à-dire de faire en sorte que le procédé formel, le futur qui peut s'épuiser à un moment, en fait, prenne dans une histoire avec du suspense, etc. Et finalement, que les gens oublient ce procédé. Et par contre, l'intègre et que ça fabrique du sens, ça fabrique des émotions. Voilà, et en même temps, ça crée un objet, je crois, un peu original, singulier, qui va explorer un bout du continent littéraire comme ça. Voilà, assez peu exploré, quoi.
Original, ça c'est sûr. Jusqu'au bout du récit, on ne sait pas qui a écrit ces instructions, qui est donc le narrateur. Il est question d'un certain Lewis, parfois, qui a l'air d'être une sorte de mentor, de chef d'une organisation étrange, d'une confrérie éventuellement, on ne sait pas trop. Et il y a aussi, il est question aussi de Strand, qui est un dessinateur. D'ailleurs, la gouvernante lit tous les soirs un livre dessiné par lui à la petite Elena. Qu'est-ce que c'est que ce livre ?
Bah, moi, ce qui m'intéressait dans le roman, c'est aussi de poser la question de l'éducation des enfants. Et cette gouvernante qui arrive pour perturber le quotidien de la famille va commencer par gagner la confiance de la petite fille. Et elle va le faire par ce livre. Et ce livre a été imaginé, dessiné par Strand, par ces gens qui sont derrière ce protocole, pour changer les habitudes de pensée. Et ces gens-là commencent par les enfants, commencent par parler à la petite fille, qui est finalement celle qui est la plus influençable, la moins formatée déjà par toute son histoire sociale, familiale, etc.
C'est vrai que c'est de la pure manipulation tout au long du roman, jusqu'à la fin, évidemment, on découvre l'ampleur de la manipulation. Mais est-ce qu'en tant que créateur, en tant qu'écrivain, vous avez ce vice-là de manipuler les choses, de les créer, donc de les diriger?
Bah bien sûr, quand on écrit un roman, on dirige évidemment la structure narrative, comment on raconte l'histoire, le suspense, etc. Ça, c'est des choses qui sont de notre ressort. Après, j'essaye aussi, quand j'écris, de laisser une place importante au lecteur, c'est-à-dire de jauger cet endroit où je propose une histoire avec des questions ouvertes et le lecteur s'en empare et a de la place pour lui placer son imaginaire. Voilà, je ne dis pas tout.
Bon, on a planté le décor. Très vite, on va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du quotidien d'une gouvernante chez les riches. Le camarade Baptiste Liger, le patron du magazine Lire, a situé ce roman, votre roman, Protocole Gouvernante, entre le film Parasite et Chanson douce de Leïla Slimani. Je trouve ça bien vu. On y revient dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec l'écrivain Guillaume Lavenant et son premier roman virtuose, Protocole Gouvernante chez Rivage. On lit une sorte de manuel, une série d'instructions données à une gouvernante en poste dans une famille bourgeoise. Elle s'occupe de la petite Elena, mais de temps en temps, elle a un comportement un peu étrange, cette gouvernante. Elle suit les instructions et parmi elles, on lui enjoint de verser, par exemple, de l'eau dans la rainure du parquet, juste devant la porte d'entrée, de faire ça en plus très régulièrement. J'ai parlé de Parasite tout à l'heure, Guillaume Lavenant. On retrouve cette tension sourde dans votre roman. On se doute qu'il va se passer quelque chose, et éventuellement quelque chose d'affreux. C'est en distillant comme ça de tout petits éléments. Parce que verser de l'eau sur du parquet, a priori, bon, ça va pour l'instant.
Oui, ben, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette gouvernante, à partir du quotidien, vraiment des gens, de la façon dont on reproduit tout le temps nos routines de tous les jours, à partir de ce quotidien, elle va faire des toutes petites actions qui vont avoir de grandes conséquences. Et voilà, c'est vraiment un travail de l'imaginaire. On est au bord de la folie et de l'absurde, mais j'essaie de tenir justement le réalisme et d'embarquer le lecteur et de lui faire croire à ces petites actions qui ont des conséquences assez importantes dans la suite du roman.
Et tout tient sur ce suspense et sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous avez dû vous freiner parce que vous aviez mis trop d'éléments de l'intrigue, enfin de la fin, ou est-ce qu'au contraire, vous avez dû accélérer un moment en vous disant « bon, il faut quand même que je montre qu'il va se passer quelque chose ». Est-ce qu'avec votre éditrice de chez Rivage, vous avez travaillé là-dessus ?
Non, ça a été plutôt en amont. J'étais assez conscient qu'il y avait une première partie qui se passait dans le quotidien, dans la famille, dans les intérieurs, dans cet intérieur bourgeois. Quelque chose qui s'ouvrait ensuite, qui devenait plus collectif, plus rapide, plus surprenant aussi. Et ce mouvement m'intéressait. Et ce mouvement, je l'ai travaillé vraiment de manière assez longue. Et j'ai pris du temps à écrire cette fin. Mais ce mouvement-là m'intéressait en tout cas dès le début.
Et ce timing dans l'apparition de l'étrange, de la folie ?
En fait, il y a deux types de suspense qui jouent dans le livre. C'est d'une part, qu'est-ce qui va se passer ? Et aussi, qui sont ces gens qui sont derrière le protocole ? Et c'est ces deux fils que je dévoile progressivement et qui suscitent, j'espère, le plaisir de lecture.
C'est terrible parce qu'on ne peut rien dire, mais il y en aurait des choses à dire sur la fin. Ce qui ajoute au malaise aussi, c'est qu'on ne sait pas trop si en fait c'est une marionnette, cette gouvernante, qui suit les ordres, donc les instructions du manuel, ou si elle est volontaire pour ça. On ne sait pas trop si elle est dominée ou si elle est dominante.
Complètement, et c'est une question qui m'intéressait, c'est quand des gens décident d'intervenir pour changer la réalité, un collectif de gens, dans quelle mesure il faut oublier son individualité pour être efficace stratégiquement, voilà, comme des armées doivent être aux ordres d'un chef ou en tout cas organisées pour changer le réel, et dans quelle mesure on oublie ses propres convictions, dans quelle mesure la sympathie qu'elle lie avec cette famille va être un frein à son action. Voilà, c'est des questions qui m'intéressaient, qui sont au cœur du roman.
Et justement, on n'a pas encore parlé du couple de bourgeois de la maison qui engage la gouvernante. Ce sont des archétypes, évidemment, mais qu'est-ce que vous cherchiez à démontrer, à décrire là-dedans ? Une banalité totale, un archétype total, ou vous avez pensé à des personnages de la fiction ou du cinéma ?
C'est surtout une satire, on va dire, d'un certain type de famille qu'on retrouve partout, dont on retrouve des traits partout, mais qui va être une famille où les membres ont du succès dans leur carrière, qui attachent une grosse importance à l'argent, qui sont aussi dans une structure très patriarcale. Du coup, ces valeurs, ça m'intéressait d'en faire une satire et de montrer comment elles allaient être complètement bouleversées et déstabilisées et perturbées par cette gouvernante. Et finalement, comment on allait voir le visage humain de ces gens se révéler suite à l'action de l'héroïne.
Vous étiez fatigué physiquement en l'écrivant, ce livre, parce que quel rythme ! Moi, j'ai trouvé que c'était un sprint et j'avoue que j'ai fait quelques pauses en soufflant un peu. Parce que, alors ça fait 180 pages, hein, c'est très court, mais alors ça va vite.
C'est l'inverse, je crois que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire ce livre. Et d'autant plus que le rythme est rapide peut-être. Parce que je devais... calculer vraiment chaque phrase, chaque scène pour que l'enchaînement soit fluide, pour qu'on ait envie d'aller à la suite, malgré le fait qu'on parle parfois de répétition du quotidien, de routine, etc. Il fallait que je trouve vraiment l'endroit juste et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis trois ans et demi même à écrire ce roman. Oui. Je suis content si le rythme est visible et prend le lecteur.
Et vous avez coupé beaucoup ?
En fait, j'ai coupé tout du long, c'est-à-dire que j'écrivais des choses que je coupais sans arrêt. À la fin, évidemment, j'ai encore coupé ce qui ne me semblait pas nécessaire pour garder vraiment le strict, ce qui me semblait la moelle du livre. Mais voilà, en écrivant, j'ai aussi fait beaucoup de scènes que j'ai jetées parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre du schéma narratif global. Voilà, ça a été un travail en aller-retour comme ça.
Il y a beaucoup de questions de moto aussi dans le livre. Vous êtes amateur de moto particulièrement. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là, ces motos ? Je dis ça parce qu'elles sont décrites avec beaucoup de précision sur la marque, sur l'année, sur le type de moteur. Il y a même des éléments de mécanique.
Non, je ne suis pas un grand spécialiste de mécanique. Ce qui m'intéressait, par contre, c'est déjà ce que provoquent dans la langue ces éléments de mécanique, de citer très précisément comment les motos sont constituées, leur partie mécanique, génère un plaisir de langue, je trouve, assez intéressant. Et en plus, ça me permettait de donner à ces gens qui sont derrière le protocole une activité commune, et une activité qui soit un petit peu surprenante et qui, en plus, a un rôle très clair à jouer dans l'histoire.
Donc, je disais, ça va très vite, mais il y a parfois des pauses. Quand on regarde avec la mère de famille et la gouvernante les aventures de Leslie Jones, qui est un feuilleton, et il y a carrément des bribes d'épisodes que vous décrivez dans le livre en alternance avec l'intrigue. C'est quoi ? C'est pour nous reposer un peu, regarder la télé, souffler ou pour toute autre raison ?
Il y a de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un huis clos un peu oppressant au début et j'avais envie d'alléger un petit peu cette structure et de proposer quelque chose d'un peu divertissant à la manière d'une série. Ça me permettait en plus de créer de la complicité entre la gouvernante et la mère de cette famille. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de disséquer ces grands systèmes narratifs que sont devenus les séries, qu'on connaît tous, qui parlent à chacun d'entre nous. Ça m'intéressait de le mettre en abîme. Voilà. Il y a aussi, je pense, un grand plaisir littéraire de proposer de l'histoire dans l'histoire. Voilà, ces histoires imbriquées, c'est aussi quelque chose qui, dans la fiction, m'intéresse. Donc pour toutes ces raisons, ça m'a paru intéressant et très drôle, pour tout dire, à développer dans le roman.
Et alors vous êtes fait plaisir parce que, alors je ne retrouve plus la page là, mais vous mettez carrément le générique de la série vers la fin du livre avec tout un tas de noms d'acteurs américains, mais que vous avez inventés. Comment ça s'est passé ? Ce sont des vrais acteurs ?
C'est un mélange, c'est-à-dire que j'ai inventé certains noms et j'ai été aussi chercher des acteurs qui m'intéressaient beaucoup pour cette série dans le monde réel. Voilà, donc l'héroïne est une actrice connue et je me suis beaucoup amusé effectivement à créer ce générique de toute pièce.
Ah voilà, je l'ai. Donc Leslie Jones dans le rôle de Amy Adams, il y a aussi Luis Fignia, Blair Redford, Shiloh Fernandez, John Spencer et William Glass dans le rôle de Terry. Vous êtes bien amusé.
Tout à fait, oui, c'était assez... Quand j'ai eu l'idée, une matinée, bah, j'y ai passé la journée ensuite à construire ce film complètement, cette série complètement fictive, mais qui en même temps a des attaches dans la réalité.
C'est votre premier roman, et bon, alors vous faites du théâtre par ailleurs, et vous êtes informaticien, c'est bien ça ?
Oui.
Ouais, et donc vous découvrez, c'est votre première rentrée littéraire. Comment ça se passe ? Comment vous...
Ben je découvre, ça m'amuse beaucoup. Voilà, je fais mes premiers salons, mes premières rencontres en librairie. C'est assez chouette aussi d'avoir les retours des lecteurs. Voilà, parce qu'on écrit pendant 4 ans tout seul dans son bureau. Et puis d'un coup, l'objet devient partagé. On a de l'attention de la presse. On a des lecteurs qui viennent vous voir, qui vous disent que ça les a touchés. Donc c'est quelque chose d'assez... dont pour l'instant, je profite à fond.
Profitez bien. Et je rappelle le titre de votre roman, Protocole gouvernante. C'est chez Rivage. Merci beaucoup, Guillaume Lavenant.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand livre. Cette semaine, c'est Fabien de Paris qui nous a appelé et qui va se prêter au jeu. Il veut parler de Confiteor de Jaume Cabré. Je ne suis pas très bien sûr de la prononciation du nom. En tout cas, c'est un roman récent, Confiteor, mais déjà culte. À tout de suite.
La voix est livre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, chaque semaine je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout est bon. Cette semaine c'est donc Fabien de Paris qui nous appelle. Bonjour Fabien.
Bonjour Nicolas.
Alors vous avez choisi Confiteor. L'auteur s'appelle Jaume Cabré, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. En tout cas c'est un livre publié chez Actes Sud assez récemment en fait, en 2013, mais je me suis aperçu que c'était devenu effectivement très vite un livre culte pour beaucoup de monde. Et c'est votre cas ?
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un livre assez récent, mais qui, depuis que je l'ai lu, reste quand même bien en tête, que j'offre à peu près à tout le monde aussi, et que j'incite à lire aussi.
Alors, vous nous rappelez un peu le contexte, de quoi ça parle, de quoi il est question dans Confiteor, même si je sais que c'est assez gigantesque comme univers.
Oui, c'est assez touffu. Mais alors, c'est l'histoire d'un intellectuel catalan, qui s'appelle Adrià Ardèvol, qui est donc professeur à l'Université de Barcelone et qui, à la fin de sa vie, écrit une sorte d'autobiographie. Et le problème pour lui, c'est que son autobiographie est écrite en même temps que la maladie d'Alzheimer, ce qui donne forcément un texte plein de trous, mais aussi plein de digressions, ce qui rend le roman très touffu, mais assez passionnant également.
Comment vous l'avez découvert, vous, ce livre ?
Je crois que je l'ai découvert, si je ne l'ai pas découvert, peut-être par vous, qui en aviez parlé, je pense que je l'ai découvert tout simplement dans une librairie, parce que la couverture aussi m'a attiré, c'est une très belle couverture. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est la même couverture dans tous les pays.
On voit un gamin qui est devant une bibliothèque gigantesque, et il se met un peu sur la pointe des pieds.
Exactement.
Pour essayer de prendre un livre en hauteur. Et rien que cette image-là, ça ouvre tout un monde.
Oui, exactement. Ça fait penser à une bibliothèque. Ça donne tout de suite envie de le lire. Et j'en savais pas grand-chose, et à la limite, tant mieux, parce que c'est vraiment un roman, je pense, dans lequel il faut plonger complètement. Tellement de digressions, de changements d'époque, de changements de narrateur aussi, que à la limite, il vaut mieux pas trop en savoir avant d'y aller, mais vraiment se lancer dedans.
Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Il y a des scènes en particulier? C'est la totalité du livre? C'est d'y repenser ensuite? Pourquoi ça vous a à ce point-là interpellé?
C'est je pense, la multiplicité du livre. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman en forme d'autobiographie, des souvenirs dont on ne sait pas finalement si ce sont des souvenirs réels ou si ce sont des souvenirs inventés, puisqu'à un moment, il décide de, comme il est atteint d'Alzheimer, il décide de remplir les trous par de la fiction. Donc, ce passage entre les souvenirs réels, qui évidemment ne sont pas réels puisque c'est un narrateur fictionnel, mais des souvenirs et de la fiction, et puis les changements, ce qui est assez compliqué, il faut quand même être assez concentré pour le lire, mais des changements d'époque en plein milieu d'une phrase. On passe du moment de l'Inquisition à un passage dans le camp d'Auschwitz, vraiment sans crier gare, au milieu d'une phrase, sans point, sans rien. Enfin, c'est une forme aussi qui est... le fond de l'histoire est absolument passionnante, mais la forme est incroyable aussi.
Oui, ça, c'est impressionnant. C'est une fresque gigantesque, effectivement, qui va de l'Inquisition à l'Allemagne nazie. Mais c'est pas... Donc, c'est assez dense, mais il arrive à faire passer ça très tranquillement. C'est-à-dire qu'on n'est jamais enseveli sous la masse de mots et d'informations dans ce livre.
Non, exactement. Exactement. Il faut juste suivre, oser rentrer dedans et suivre le narrateur qui nous amène effectivement d'un pays à l'autre. Alors, il y a un violon aussi, qui est une sorte d'objet qui traverse à la fois l'histoire avec un grand H et l'histoire de sa famille à lui, qui est un violon qui a été un Stradivarius, qui a été pris à une famille juive également, donc qui traverse vraiment toute l'histoire du roman et toute l'histoire mondiale finalement, et qui sert un peu d'accroche, de l'objet qui permet de se raccorder à la réalité, qui permet de rester bien dans le roman. Et puis c'est une très belle histoire d'amour aussi, hein. Une histoire d'amour empêchée, mais très belle aussi.
C'est un roman total. Merci beaucoup Fabien. Confiteor, donc Confiteor, chez Actes Sud de Jaume Cabré. Merci beaucoup Fabien.
Merci encore, au revoir.
Europe 1.
Merci beaucoup Fabien. Si vous aussi vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter, comme promis, la bibliothèque du chanteur Dave. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue. Il est temps de quitter un peu ce studio. Dave vient de sortir son nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Il chantait il y a quelques années « J'irai bien faire un tour du côté de chez Swann ». Et ça, c'est le titre du premier volume de La recherche du temps perdu de Proust. Alors je me suis dit, forcément, ce type-là doit aimer la littérature. Et bien, je me suis vraiment pas trompé. Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Ah ben j'adore, si c'est pas parler de livres, venez quand vous voulez, jusqu'à 10h le soir, après je dors.
Et il y en a plein des livres d'ailleurs, ça tombe bien. Et on est arrivé évidemment par le rez-de-chaussée, on est dans le 16e arrondissement de Paris, et vous m'avez dit non, mais on va commencer par là-haut, il y a un auteur dont je veux absolument vous parler.
Voilà, parce que
donc,
je trouve qu'il est méconnu.
On y va.
Voilà, dans les chansons, il y a des gens méconnus après leur mort, comme je sais pas, Mabéco ou Nougaro, très injuste. Et dans les écrivains français, je suis toujours surpris que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire. Le prénom Paul, c'est-à-dire D'Ivoire. C'est un écrivain, un contemporain de Jules Verne, qui a écrit des livres extraordinaires qu'on peut trouver en livre de poche, parce que moi, je les ai dans la collection de l'époque.
Ouais, vous avez collection grand format de l'époque, grand format et rouge, un peu comme les Jules Verne, d'ailleurs,
pareil,
des éditions
Hetzel. Il y en a aussi, d'ailleurs, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est, Paul d'Ivoire?
C'est des livres d'aventure, c'est des livres... presque pour ados, quoi, ou pour adolescents interdits, comme je suis. Ça m'énerve que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire, parce que c'est donc un contemporain de Jules Verne, avec le même style de livre. Et c'est des livres un peu d'adolescent ou d'adolescent éternel. Tiens, ça me fait penser sur mon album, j'ai dit adolescent étonné d'additionner tant d'années.
C'est joli.
Je suis un adolescent étonné d'additionner tant d'années, vraiment.
Parce que vous êtes encore adolescent, au fond.
Ah ouais, je pense.
Vous le relisez, Paul Divoy?
J'ai un petit branleur en quelque chose.
Vous le relisez encore aujourd'hui, Paul Divoy?
J'ai relu, il n'y a pas longtemps, pas dans la version de ces grands livres, parce que là, tu te couches avec ça, tu ne tiens pas, quoi. Donc, ça existe en livre de poche.
Il y a le Sergent Simplet, les Semeurs de glace, Miss Mousquetaire. C'est quoi ça?
C'est très connu. Alors, c'est un couple qui va se coucher au bord de l'eau, quelque part, en France, et puis ils entendent parler à côté d'un truc qui se ressemble très étrange, un kidnapping, etc. Ils vont suivre, et après ils se font prendre, ils se réveillent sur un bateau, et après ils se trouvent en Indochine. C'est un livre d'aventure, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est sur 3 livres, et il faut vraiment, enfin bref, j'espère donner envie aux gens qui vous écoutent.
Vous l'avez découvert quand? Parce que c'est quand un truc de gamin,
j'avais
ça.
J'avais 15-16 ans, je pense.
Vous étiez déjà en France?
Non, je l'ai lu en hollandais.
Ah, vous l'avez lu en hollandais?
Ah oui, complètement, oui.
Et vous lisez toujours en hollandais ou pas?
Très rarement. Je lis en fait en anglais et en français, et de temps en temps en hollandais, parce que, en fait, les livres, c'est des rencontres, vous le savez aussi bien que moi. C'est un ami qui va lire tel livre, etc. Et donc, ça peut être un ami hollandais. Donc, j'aime bien aussi être un peu au courant de ce qui se passe dans la littérature hollandaise, quoi. Mais par exemple, Dostoïevski, qui était un de mes écrivains quand j'étais adolescent, qui fait partie de ceux qui m'ont fait un peu partir. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent envie de voyager.
C'est à cause de Dostoïevski que vous avez tout quitté.
C'est plusieurs auteurs. Et il y avait évidemment Jacques Kerouac, On the Road, sur la route en français, qui m'ont donné envie. Il y a un écrivain hollandais qu'on peut trouver en français, qui s'appelle C.S. Notenboom, qui a écrit un livre, Philippe et les autres. Et tout ça a fait que j'avais envie d'aller voir ailleurs, quoi. Donc, Dostoïevski m'a plutôt fait faire des conneries à cause de Crime et Châtiment, parce que je me suis pris un peu par Raskolnikov et je voulais essayer des choses interdites. Par exemple, j'ai volé un billet dans le portefeuille de mon père, panique à la maison, tout le monde est accusé et je n'ai pas tenu bon. À un moment, j'ai aidé à le retrouver. Pourquoi? C'est moi qui l'ai volé, donc je l'ai retrouvé.
Est-ce qu'on l'a retrouvé?
Je l'ai retrouvé sur un canapé, entre 2 coussins, où je venais de le mettre. Donc.
Vous n'avez pas avoué le crime quand même?
Non, je suis bon, mais pas ce point. Bon, mais pas con quand même.
Sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Et qu'est-ce que c'est tous ces livres-là?
Alors là, il y a quand même beaucoup de... Un grand partie de mes livres d'enfants sont au fond de la mer. Parce que les bateaux avec lesquels j'ai quitté... Moi, je suis parti en bateau. J'ai quitté les Pays-Bas en bateau. Et ce bateau, après, a continué sans moi. Et il est rentré dans un rocher, dans la mer Rouge. Et moi, j'y revenais régulièrement. J'avais quitté le bateau parce que le garçon qui j'ai quitté la Hollande, j'en étais éperdument amoureux, mais comme il n'était pas gay, comme on dit aujourd'hui, c'était difficile quand même dans la même cabine. À un moment, j'en avais marre, quoi. Et donc, mais c'est resté mon meilleur ami jusqu'à sa mort. Il est mort d'un cancer il y a pas mal d'années maintenant. Et tous mes livres d'enfance sont à 40 mètres de fond.
Comment ça se fait qu'ils aient continué sans vous, vos livres?
Ah, bah parce que j'y allais le rejoindre régulièrement, parce que j'avais encore de l'espoir. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Patrick Vazot. Voilà.
Ah, c'est dur, ça.
Et donc, mais il m'en restait quand même un peu. Sinon, évidemment, il y a des livres en anglais.
Alors, c'est quoi ces livres-là?
Là, c'est beaucoup de hollandais, quand même. Là-haut, c'est... Ouais, c'est mélange. Vous savez, on n'a pas vraiment mis les choses en l'ordre. Il y a du Stephen King, voilà.
Oui.
Moi, j'ai une période de science-fiction très longue dans ma vie, qui a vraiment... Je ne regrette pas, parce que beaucoup de choses que j'ai lues dans le livre de science-fiction sont arrivées, même des choses graves et des choses horribles. Oui. Heureusement, pas tout ce que raconte Stephen King, parce que c'est quand même un chef des horreurs.
C'est quoi votre préféré de Stephen King? J'adore aussi, c'est pour ça.
Oh, bah, le tour, l'histoire du tour. Là.
La tour sombre, qui a été adaptée en série télé d'ailleurs récemment.
C'est raté.
Vous avez regardé?
Non, j'ai vu un extrait, je dis c'est raté. Il y a un livre de science-fiction qui s'appelle Dune. C'est un livre de Frank Herbert. Vous connaissez?
Bien sûr.
Fantastique. Fantastique, ils ont essayé de le faire rater aussi, on ne peut pas. Moi, c'est marrant parce que quand mon père est mort, vous savez, à le moment de la séance après l'enterrement, il y a un vieux monsieur qui avait des larmes aux yeux et j'ai eu cette phrase qui sort de Dune, il donne de l'eau aux morts. parce que l'eau était tellement rare, vous savez, si vous vous souvenez. Donc donner de l'eau, il ne fallait surtout pas, parce qu'on en avait peu, donc on ne pouvait même pas pleurer. Quoi. Et c'est pour ça, à ce moment-là, j'ai dit, merde, tu penses à Dune pendant que ce pauvre homme pleure pour ton papa.
Mais les livres sont avec vous sans arrêt, en fait. Ah, vous ouais. regardez le monde par les livres, finalement.
Heureusement. Hein. J'ai, vers la cinquantaine, ce qui est quand même déjà il y a plus de 20 ans, j'ai compris que... tout ce qu'on fait, c'est un peu pour oublier justement que la vie est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, tant qu'on n'y pense pas trop, on est bien. Ça peut être un bon repas, un joli voyage. Mais pour, faire la cuisine dans mon corps, j'adore faire. Mais avant tout, lire, quoi. On est ailleurs quand on lit. Et donc, on ne peut pas être vraiment malheureux quand on est au bord de sa piscine avec un petit peu de soleil et un bon bouquin, quoi.
Mais vu ce que vous venez de me dire, les romans, ils ne vous servent pas seulement à vous divertir. Ils vous aident à vivre d'une certaine manière.
Dans c'est quel...
Comment, hein. Comment
mais parce que j'y apprends des choses, parce qu'ils m'aident à vivre. C'est pour ça, c'est ça, un viatique, quoi. Ils me permettent de voyager sans prendre l'avion et passer par la douane. Et puis, ils m'enrichissent, quoi. Je pense que c'est ça.
Vous avez encore des livres anciens, là, des petits formats. Vous aimez aussi le... Vous êtes un fétichiste du livre. Vous aimez avoir des éditions originales, des choses comme ça.
Vous avez vu avec Paul Divoire, oui, j'aime bien ça. Puis l'odeur des livres, quoi. Maintenant, je ne suis pas contre prendre un Kindle pour prendre un grand livre dans un train et pas avoir des tonnes de livres avec soi. Hein, c'est pratique. Mais rien vaut quand même l'odeur d'un vieux livre, quoi. L'odeur des pages un peu moisies. Ça va avec mon âge, je suis moi-même un peu moisi sur moi.
Allez, attendez, c'est quoi cette pièce quand même là? Parce que moi je suis un peu, voilà, je suis curieux là. Je suis chez Dave, dans une ce qui a l'air d'être votre bureau, c'est là que
ah,
vous composez?
Non, ça c'est la pièce de mon compagnon et c'est là où il écrit mes chansons.
D'accord.
Toutes les chansons de l'album qui vient de sortir, sauf une qui est des Renaud, ce qui m'a fait très très plaisir de chanter un texte de Renaud, parce que généralement il le chante lui-même. Et il m'en a donné une texte sur lequel on a fait mettre la musique par mon réalisateur Thierry Geoffroy. Sinon, les paroles, depuis 1974, sont de Patrick Vazot. Et lui a un grand bureau à lui. Moi, j'ai un petit coin ordinateur dans la chambre. Parce que moi, je ne travaille pas là. Moi, je travaille sur la scène. C'est pas pareil.
La voix est libre. Nicolas Caro.
Donc là, on est au rez-de-chaussée.
Il y a
deux guitares et il y a encore beaucoup de livres, de part et d'autre d'une belle cheminée.
Ouais,
c'est quoi les livres qui sont ici?
Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est ça qui est terrible. Il y a des livres là aussi, c'est assez désordonné. Qu'est-ce qu'il y a à bavouiller? C'est-à-dire que moi, j'ai fait le lycée classique, comme on dit en France. Donc, c'est-à-dire que latin, grec, beaucoup de langues, quand même assez littéraire. J'étais rédacteur en chef du journal, donc j'écrivais. Donc, j'ai toujours été, comme vous disiez à juste titre, attiré par les mots, quoi. Une chanson de Renaud sur son ancien album, Le Mot. Très jolie chanson.
Et vous n'écrivez pas? Vous n'avez pas un roman dans le tiroir qui...
J'ai écrit 3 biographies, ce qui est quand même très prétentieux. 3 autobiographies.
Mais de la fiction.
Qu'une vie.
De la fiction.
Ça m'est déjà venu. J'écrivais pas mal d'histoires courtes quand j'étais plus jeune. Mais la chanson a poussé ça quand même, beaucoup. Ouais. Non, je pense pas. En plus, je ne pense pas avoir la discipline, c'est une question de discipline souvent, hein, la discipline nécessaire pour te mettre devant une feuille blanche le matin et écrire 2-3 heures. Avec les autobiographies, j'y suis arrivé parce que le sujet était tellement passionnant, mais modeste.
Qu'est-ce que c'est que ces livres bleus là, que je vois sous la télé?
Ça, c'est sur les livres de Van Gogh.
Ah.
Parce que Van Gogh...
Triote.
J'ai encore des Français qui pensent que Van Gogh était français.
Oui,
ça m'énerve un peu. Et à un moment, j'ai failli jouer Théo Van Gogh dans un film Maurice Piala. C'était assez incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps. À un moment, Daniel Auteuil, qui fait partie de mes plus vieux amis et mes bons amis, et Daniel était pressenti par Piala pour jouer Vincent Van Gogh. Et c'est Piala lui-même, Maurice Piala lui-même, qui a dit à Daniel... Je sais que votre ami Dave est hollandais et ça m'intéresserait qu'il joue Théo. Et Piala avait toujours une forme d'admiration assez simpliste pour les chanteurs. Ça l'épatait, les chanteurs. Et on a fait un dîner ensemble avec lui, sa compagne, Daniel et moi. Et ça a fini avec « Bon, ben, on se voit bientôt pour les essayages de costumes ». On est parti dans la rue avec Daniel. Du restaurant. Je nous vois courir dans la rue un peu comme un pub pour une marque de cigarettes, main dans la main, hurlant de joie. On va travailler ensemble de nouveau, parce qu'on avait fait ensemble quand même 2 ans de théâtre. et on prend ma voiture, je repasse cette petite rue, Pierre là est au bord de la route, il nous fait signe de nous arrêter, je baisse la fenêtre, il me dit finalement non. Donc ça durait 10 minutes quoi.
Sans autre explication.
Sans autre explication, c'était bien lui. Et après, avec Daniel, lui a commencé même à repeindre, à apprendre à peindre, etc. Et lui aussi s'est fait envoyer promener. C'est Jacques Dutronc qui a fait le film. Donc quand même un chanteur. Mais Van Gogh de Piala, c'est Jacques Dutronc. Voilà, c'est intéressant.
Dommage.
Ouais. Mais sinon, Van Gogh, évidemment, je le cite souvent parce que quand les jeunes gens me demandent aux vieux chanteurs que je suis comment il faut faire, je dis 3 lettres. C'est TTC, travail, talent, chance. Et un jour, j'ai vu une émission, un documentaire sur Maurice Chevalier qui disait « Faut avant tout avoir de la chance ». Et c'est lui qui a raison. La chance est la chose la plus importante. Que ce soit un chanteur, que ce soit pour ouvrir un garage ou un restaurant, si tu n'as pas de chance, tu n'y arrives à rien. Et Van Gogh avait du talent, il a beaucoup travaillé et il n'a pas vendu un tableau de sa vie.
C'est terrible,
je
ça.
Je pense que son frère, Théo, n'était pas le meilleur manager du monde non plus. Ce n'était pas un bon agent, peut-être.
Bon, ben merci beaucoup, Dave, pour cette belle visite, pleine de livres et d'histoires. Merci beaucoup, Dave.
À bientôt.
Europe 1.
De retour en studio, merci beaucoup à Fabien Duchesne pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouvel album de Dave, Souviens-toi d'aimer. Il sera par ailleurs à Bobino, à Paris, le 18 novembre prochain. Restez là, les libraires de La Voix et Livre sont prêts. Ils sont là avec leurs bonnes idées de lecture. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans. Aujourd'hui, Anna Schulman de la librairie L'Écriture à Vaucresson est avec nous.
Bonjour.
Et une exception aujourd'hui, c'est une professionnelle du livre, mais elle n'est pas libraire. Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Pauline.
Bonjour.
On commence avec vous Anna, mais d'abord, est-ce qu'on peut faire un petit bilan là, dans votre librairie avec les prix qui commencent à arriver, tout ça? Qu'est-ce qui se vend en ce
moment? Bien sûr. Alors, donc, comme chaque année, il y a Amélie Nothomb, rendez-vous incontournable de la rentrée. Mais cette année particulièrement, elle se met dans la peau de Jésus cette année. Donc ça marche pas mal.
C'est vrai qu'on dit, et c'est vrai, moi je le constate aussi, je l'ai constaté, c'est un très grand Amélie Nothomb.
Oui, et c'est vrai, je le confirme, j'ai lu également, c'est très très bien. Après, effectivement, avec les listes de prix qui commencent à tomber, on voit très clairement Karine Thuil qui se détache, qui est en même temps très actuel, un roman vraiment d'aujourd'hui.
Les choses humaines.
Exactement, chez Gallimard. Et puis Jean-Paul Dubois aussi, qui a un livre magnifique, super, qui a un rendez-vous aussi qu'on attend et qui est là
tous
encore.
Les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et ça,
magnifique.
Ça marche, c'est bien, je suis content.
Voilà.
On commence avec vous pour votre choix du jour.
Très
Anna
bien.
Schulman, qu'est-ce que
alors
vous avez choisi?
Moi, je vais vous parler du Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena aux éditions POL. C'est le 9e livre en fait, de Santiago Amigorena dans ces éditions-là, POL, qui fait partie en fait, d'un vaste projet autobiographique qui s'intitule Le Dernier Livre. Et au tout début, en fait, l'auteur nous indique que ce livre, c'est en fait la genèse de ce projet-là. Mmh. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est l'histoire en fait, du grand-père de l'auteur, du père de sa mère. Il s'appelle Vicente Rosenberg, qui a quitté la Pologne en 1928 pour émigrer en Argentine. Pour diverses raisons, dont l'antisémitisme évidemment, mais aussi pour se faire un petit peu de la tradition du shtetl, de sa mère un peu encombrante.
Du shtetl,
oui, c'est les villages, les communautés, si vous voulez, juives en Europe de l'Est, avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il émigre comme ça avec un ami. Là-bas, il tombe amoureux d'une femme. Il a 3 enfants avec elle. Et il tient un magasin de meubles en bois qui sont fabriqués par son beau-père. Donc, les années passent comme ça, tranquillement, sereinement. Vicente a enfin trouvé un foyer dans lequel il se sent bien. Mais sa mère est restée en Pologne, à Varsovie. Et donc, tout au long de son exil, les nombreuses lettres qu'elle lui a envoyées, qui l'ont toujours un peu agacée, parce qu'une mère juive un peu encombrante, comme on sait, se font de plus en plus rares tout au long de ces années 40. Mmh. Et elle, qui n'a jamais voulu quitter la Pologne pour rester près de son fils aîné, en fait, raconte maintenant que les Allemands, ont construit un mur. Évidemment, c'est le ghetto de Varsovie dans lequel ils sont confinés. Et au fur et à mesure, Vicente lit ses lettres, qui arrivent souvent avec 3 semaines d'écart, d'accord, les journaux étrangers, pareil. Et au cours de ces années-là, on sait vaguement ce qui se passe en Europe, mais pas trop. Même 40, 41, même 42, c'est vaguement évoqué. Et au fur et à mesure où il apprend tout ça, il se retire en fait dans le silence. Et quand il est chez lui, avec sa famille, au magasin de meubles, avec ses amis, au café, il se tait comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est à Buenos Aires. Et c'est une ville à ce moment-là qui revit. parce qu'avec tous ces exilés européens, c'est une ville qui retrouve sa grandeur d'antan. Donc c'est un livre magnifique sur l'identité. Qui est-on lorsqu'on ne peut plus être qu'une seule chauve, juif, sur la culpabilité, sur la parole. Et je reviens juste pour dire que c'est l'origine de ce projet autobiographique parce que l'auteur, quand il était enfant, s'est lui-même retiré dans le silence. Donc c'est l'origine de ce silence. Voilà, c'est magnifique.
C'est super. Merci beaucoup, Anna Schulman. Le ghetto intérieur chez POL de Santiago Amigorena. À vous, Pauline Carayon. Vous m'avez dit que vous aviez avec vous un livre émouvant et poignant même.
Eh oui, j'ai avec moi Ordessa de Manuel Villas, paru aux éditions du Sous-Sol. Et je vais commencer par une citation, si vous le voulez bien. Le bien n'existe pas, le mal non plus. J'ai songé à l'anarchie du cœur, là où le bien et le mal s'évaporent et où la vie revient sans attribut. Je suis donc monté dans ma voiture pour me rendre dans les montagnes. Eh bien, bouclez vos ceintures, direction Ordessa, vallée des Pyrénées et tombeau des souvenirs de l'auteur. Alors, Ordessa, c'est une sorte de manuel de deuil, mais à la sauce ultra littéraire. Voilà, à 50 ans, quand on perd ses parents, on se sent toujours un peu gauche et orphelin. Mais ne sortez pas les cordes tout de suite. Si tout se casse la gueule un jour ou l'autre, eh bien, la vie reprend le dessus. Alors pas pour le plaisir, mais pour l'exaltation du présent, comme le dit l'auteur. Mais il faut bien trouver un sens à sa vie. Donc l'auteur choisit de mener une quête d'identité en faisant dialoguer son enfance et sa condition de père. Et ça représente autant de digressions réjouissantes et amères sur ses choix de vie, ses traumas. Sorte d'ultime confession courageuse et bouleversante sur l'insouciance, sur l'enfance qui disparaît. Plus jeune, l'auteur qui est le narrateur d'ailleurs, veut échapper à sa condition sociale et même s'il a honte de ce désir, il redoute le déterminisme comme la religion. Et il s'en sort en devenant professeur dans un lycée technique. Il se dégage des instants de plénitude, comme le souvenir de sa mère qui lui rappelle l'huile d'olive, la matière vivante, organique. Voilà, ce bouquin est plein d'aphorismes qui nous assènent des coups de vérité en pleine figure, du genre « vieillir est égalitaire » ou encore « l'absolution est sans substance et oubliable ». Et bam !
Merci beaucoup à toutes les deux. Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre et bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Comme chaque semaine, on vous retrouve pour le Conseil Littérature Jeunesse. Aujourd'hui, vous avez choisi un album intitulé « Une maman, c'est comme une maison » d'Aurore Petit.
Oui, dans cet album, l'auteur raconte en fait deux naissances, celle d'un enfant mais aussi celle d'une mère. À chaque page, une comparaison. Une maman, c'est comme un nid. On voit la maman porter son nouveau-né dans un lange à la maternité. Une maman, c'est comme un kangourou. On la voit avec un porte-bébé sur le ventre. Une maman, c'est comme une île, on la voit à ce moment-là dans une baignoire avec son petit garçon de quelques mois sur elle. Ces comparaisons égrènent en fait avec beaucoup de poésie chaque étape du quotidien d'un bébé, mais aussi les sensations d'une maman, comme l'a décrit il y a quelques années la chanteuse canadienne Linda Lemay.
Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère.
Bon, il y a le papa aussi. Hein,
mais... Ah bah bien sûr, on le voit d'ailleurs. Hein, le papa, il est dans ce livre à chaque fois à côté de la maman.
On les suit jusqu'où, cette maman et son bébé?
Le bébé grandit, ingurgite ses premières purées, marche à quatre pattes, se baigne pour la première fois. Et à mesure que ce bébé pousse, il s'éloigne petit à petit de sa maman pour vivre ses premières expériences. L'auteur Aurore Petit a eu l'idée de cet album au moment justement de sa propre grossesse. Une nécessité de dessiner et d'écrire cette évolution comme pour mieux la capter. Aurore Petit.
C'est aussi une manière de fixer dans le temps ces instants qui sont très fugaces. En fait, la première année, il y a, quand on découvre son enfant, son bébé, il y a quelque chose que moi j'ai ressenti très fort. C'est cette conscience en fait de vivre des moments qui nous échappent alors même qu'on les vit en fait. Ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à arrêter le temps. Et je me souviens mettre très souvent cette réflexion quand j'avais mon tout petit bébé dans les bras. Je me disais mais en fait demain il sera déjà différent. Et je crois que faire un livre sur cette période-là, c'est une manière aussi de pouvoir le vivre plus sereinement.
Question rituelle, Victor, à partir de quel âge on peut lire ce livre aux enfants?
Alors c'est vraiment un livre pour les tout-petits, à partir de vraiment 2-3 ans. L'enchaînement des dessins et des comparaisons sonne vraiment comme une jolie comptine, une douce mélodie qu'on peut raconter même à son propre nouveau-né, si on en a envie. C'est un livre touchant, juste de bout en bout, avec des illustrations vraiment sublimes, des contrastes intelligents, comme sur la page « Une maman, c'est comme la lune dans la nuit », on voit vraiment le visage de la mère illuminée qui sert de repère à son petit garçon. C'est aussi, et je le conseille, une superbe idée de cadeau de naissance.
Ben oui, bonne idée, on ne sait jamais quoi acheter. Et en plus, il faut commencer la collecte tout de suite. Et on rappelle le titre de ce livre, « Une maman, c'est comme une maison » d'Aurore Petit. Et c'est aux éditions Les Fourmis Rouges. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale toujours pertinente. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.